13 70.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Que se passe-t-il dans l'est de la République démocratique du Congo? Ces derniers mois, la situation sécuritaire s'est gravement dégradée dans la province du Nord Kivu. Depuis le mois d'octobre, plus de 200 personnes ont été tuées, des hommes, des femmes et des enfants, avec à chaque fois le même mode opératoire. Les assaillants agissent la nuit et tuent à l'arme blanche. Parfois, les villageois sont même brûlés vifs, des massacres qui n'ont jamais été revendiqués. Mais pour les autorités, il ne fait aucun doute, l'ennemi ne peut être que la rébellion ougandaise. ADF Nalu, des rebelles actifs dans cette région depuis maintenant une vingtaine d'années. En tout cas sur place, la population dénonce la passivité de l'armée congolaise et des casques bleus. Alors comment expliquez-vous la multiplication de ces attaques? Comment garantir au mieux la sécurité dans cette province? Et pourquoi est-il si difficile finalement d'anéantir ce groupe rebelle qui ne compterait que 400 hommes? On va en parler évidemment durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous nous appelez de France. Vos réactions sur la page Facebook de l'émission, il y a par exemple Marie-Lou qui nous dit: si l'armée et les casques bleus se révèlent incapables, c'est qu'ils ont une mauvaise connaissance du terrain, ou peut-être, dit-elle ironiquement, peut-être ont-ils peur des rebelles. Le mieux serait d'armer la population qui se fait massacrer pour prendre en main sa propre défense. On va voir ce qu'en pensent d'autres auditeurs sur ce point de vue assez trivial de Marie-Lou qui nous écrit donc de la République démocratique du Congo. Bonjour Patrick.
Bonjour Juan.
Vous êtes dans l'est du pays, vous êtes à Goma précisément, et comme les habitants de Beni où ont lieu ces massacres, vous êtes également en colère.
Mais sincèrement, c'est révoltant, c'est un défi lancé contre la République, et les autorités de ce pays nous montrent une incapacité notoire et une contradiction qui ne dit pas franchement son nom. En fait, vous avez parlé tantôt des ADF Nalu, mais le gouverneur des provinces ici, lui, parle d'autre chose. On se demande finalement qui tue les gens à Beni. Sont-ils même, des mois après, sont-ils même incapables de nous dire réellement qui tue les gens à Beni? À Kinshasa, les radios disent les ADF Nalu. Ici, on nous parle de l'ancien leader Moussa Nyamou ici avec ses hommes. On ne sait pas finalement qui tue les gens à Beni.
Donc ça veut dire quoi ça signifie quoi qu'à l'heure actuelle, finalement, il est très difficile d'identifier l'ennemi?
C'est l'incapacité notoire de l'État qui est mise à nu, parce que des mois après qu'on tue des gens, il n'y a personne qui soit sanctionné, on ne sait même pas qui tue les gens à Beni, il y a des contradictions carrément entre le gouvernement central et le pouvoir provincial, et on ne sanctionne personne, parce qu'on se dit comme si le système de sécurité, l'armée en place, les autorités locales sont tous à la hauteur de la chose. Des mois après, il n'y a pas de sanctions qui tombent. On a vu au Kenya, on a tué 23 personnes, le ministre de l'Intérieur et le commandant de la police ont été tout de suite remerciés par le président de la République. Mais ici, chez nous, des mois après, on ne sait pas. On ne comprend vraiment rien.
Vous ne comprenez pas, et en même temps, ce qui vous surprend, c'est qu'il n'y ait effectivement aucune sanction, comme vous le disiez. C'est important de rappeler que 12 députés du pouvoir et de l'opposition se sont rendus à la fin du mois d'octobre dans le secteur, à Beni. Ils ont pu rencontrer évidemment la population et les responsables politiques de la région. Et les conclusions sont quand même assez intéressantes, puisque ces députés du pouvoir et de l'opposition n'hésitent pas à pointer du doigt les défaillances au sein de l'armée congolaise, et ils disent clairement que le système d'alerte a été un échec. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, la population a signalé l'imminence d'une attaque aux forces de l'ordre, mais il n'y a eu aucune disposition qui avait été prise à l'époque, à ce moment-là, et l'armée est systématiquement arrivée sur les lieux, mais une fois le massacre commis. Patrick, ne raccrochez pas, on va voir ce qu'en pense Christophe, et on vous redonne la parole dans un instant. Christophe, vous êtes à Kinshasa, dans la capitale. Bonjour.
Bonjour Juan.
Bienvenue, on vous écoute.
Oui, moi je crois qu'il faut aller en profondeur. Je considère que ce qui se passe au Nord Kivu est une sorte de guerre asymétrique qui nous est livrée sous la forme de guérilla rurale par ceux qui ne veulent pas que le Congo retrouve la stabilité et la paix. Et donc, c'est connu, à mon avis, c'est une guerre d'arrière-garde après la défaite du M23. Il faudra, en ce moment-là, tourner les yeux vers là d'où viennent toujours ces types de rébellions sous des formes diverses. Mmh. Et surtout, au niveau des FARDC et de la MONUSCO, changer de stratégie, adopter des stratégies beaucoup plus efficaces, adaptées à la guérilla rurale.
Oui. Mais alors il y a un point très intéressant, Christophe. Vous parliez du M23, mouvement rebelle qui a été anéanti il y a tout juste un an par l'armée congolaise. À l'époque, les regards se tournaient vers le Rwanda. S'il s'agit bien des ADF Nalu, les regards doivent se tourner vers l'Ouganda. L'ADF Nalu, c'est un groupe rebelle opposé au président ougandais. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à mettre la main sur ces 400 combattants? Il serait 400 au maximum, dit-on.
Oui, d'abord, il faut signaler que ce n'est pas dans les habitudes des ADF Nalu qui ont fait déjà plus de 20 ans au pays de se livrer à ce genre de massacre odieux. C'est quand même assez curieux. Et ensuite, les villages dans nos pays, ce sont des petites communautés. Tout le monde connaît tout le monde, même jusqu'aux origines lointaines. Donc on peut se demander pourquoi on ne détecte pas ces gens-là. Moi, je note aussi que c'est très curieux. C'est en ce moment que l'Ouganda lance des ultimatums à la RDC et menace d'ici le 12 de reconnaître aux ex-M23 le statut de réfugié politique. Mmh. C'est quand même un élément assez symptomatique. Il faut impliquer les services de sécurité du Rwanda et de l'Ouganda, je n'hésite pas à le dire, dans le cadre de la coopération avec ce pays pour garantir la sécurité de tous ces pays de la région. Donc on ne peut pas oublier cet élément qui me paraît important. On a suivi aussi les déclarations de Bertrand Bisimwa, le chef M23, qui menace aussi la reprise des hostilités.
Oui, alors on va pas élargir le débat aux autres mouvements rebelles. Il y a effectivement le M23 qui pourrait de nouveau ressurgir sur la scène congolaise. Ce sont des supputations, évidemment. On va se focaliser aux événements de ces dernières semaines et de ces deux derniers mois, finalement, à Beni. Suffisamment important pour y consacrer 20 minutes. Merci, Christophe, de nous avoir appelé. Patrick, à Goma, un petit mot de conclusion.
Ben moi je voulais dire, Juan, qu'il faut que les têtes tombent finalement. La machine en place a montré ses défaillances. Il faut qu'on nous change des autorités politiques dans la région ici, qui font partie intégrante du problème que nous sommes en train de suivre à Beni, qu'on voit un peu comment renforcer les structures militaires en place, les renseignements aussi. Vous allez voir, c'est des choses qui, si l'État y met la volonté et des moyens, on va arriver à les éradiquer. Mais finalement, chaque jour, nous perdons des gens que l'État ne sent même pas intérêt. Ouais. On intègre carrément de jeter des cadavres dans des fosses communes. C'est inacceptable dans un pays qui se veut debout. Et nous demandons sincèrement à ceux qui viennent des sanctions.
Des sanctions, c'est ce que vous exigez en tant que citoyen vivant dans cette région. Merci Patrick, merci de cette réaction. Un détour sur la page Facebook de l'émission. Roger nous dit: le mécanisme de protection des populations est dépassé, la population est à la merci des tueries barbares, la République démocratique du Congo n'a pas une armée professionnelle capable de remplir sa mission. Il est grand temps, nous dit Roger, de faire partir la MONUSCO, donc les casques bleus, dont le bilan est largement négatif. On n'a pas encore parlé des casques bleus jusqu'à présent. On va voir si peut-être Prince s'y intéresse ou pas. Bonjour Prince, vous êtes à New York?
Oui, Juan, bonjour.
Bienvenue, vous êtes congolais, vous suivez évidemment l'actualité dans votre pays. On vous écoute sur ces tueries à Beni, dans l'est de la RDC.
Absolument, merci pour la parole. Mon intervention va d'abord dans le sens du premier interlocuteur en ce qui concerne l'autorité du gouverneur de la province du Nord Kivu, lui qui est en charge de cette province. Que fait-il? Parce qu'il a quand même, l'armée qui est sous sa responsabilité dans cette province, dans cette partie de la République, ainsi que les forces de la MONUC. Donc, c'est à lui d'organiser la population, par exemple, soit à l'autodéfense ou à l'information sur l'identité des massacreurs. Mmh. Parce que,
mais comment expliquez-vous, Prince, qu'à l'heure actuelle, les villageois soient pas vraiment capables de dire, les agresseurs, ce sont eux? Et mettre quelqu'un derrière ce nom, vous voyez, pour l'instant, on suppute que ce soit les ADF Nalu, ces rebelles ougandais. Mais comment vous expliquez que les villageois qui vivent au quotidien dans cette région, dans les villages, soient incapables d'accuser clairement quelqu'un?
C'est ça le problème. Cette incapacité d'identifier les massacreurs démontre encore une fois de plus l'incapacité aussi du gouvernement et des autorités locales de poursuivre ceux qui ont perpétré les massacres. Parce que un massacre se passe la nuit, et j'imagine que le matin, les perpétrateurs des massacres n'iront pas à des milliers de kilomètres. Mmh. Alors, la MONUC qui assiste l'armée locale a des hélicoptères, ils ont des drones. Alors, ces instruments servent à quoi? Vous vous rendez compte?
Ouais. Mmh.
Alors, c'est une incapacité des autorités locales, du gouverneur, qui est incapable de mettre l'armée en œuvre.
Et les casques bleus, on a vu la population de Béni, il y a quelques semaines, manifester contre l'inefficacité des casques bleus. Vous comprenez, vous, cette colère?
Mais ça dépasse notre entendement. Parce que nous ne pouvons pas continuer à compter sur la MONUSCO alors qu'elle prouve qu'elle n'est qu'une mission d'observation. On tue à côté de la MONUC. Nous ne pouvons plus compter sur cela. Alors, nous comptons sur notre propre armée, mais nous remarquons que l'armée aussi devient comme complice de cette situation. Mmh. Et là, je passe dans le deuxième volet qui veut à ce que nous sachions si l'insécurité est récurrente à l'est de la République. N'est-elle pas un mauvais présage pour les élections, ainsi aussi pour le recensement que veut le gouvernement? Parce que s'il y a des massacres récurrents de cette façon, alors il n'y aura pas recensement dans cette partie du territoire et les élections seront encore chaotiques comme en 2006 et en 2011.
Donc vous êtes en train de nous dire que d'une certaine façon, les autorités auraient tout intérêt à entretenir l'insécurité dans l'Est pour remettre en cause le recensement et donc peut-être retarder encore un peu plus les élections. C'est le scénario qu'envisagent certains, en tout cas c'est le vôtre. Prince, merci de nous avoir appelé de New York. Bonne fin de nuit sur place. 339-693-693-70. Maki sur Facebook. C'est incroyable ce qui se passe à Béni. C'est insupportable d'assister à ces massacres. On aimerait comprendre pourquoi. Rien n'est fait pour les empêcher. Que manque-t-il à l'armée et à l'ONU pour qu'ils puissent enfin isoler ces ADF Nalou? Bonjour Félicien.
Bonjour Théoane.
Alors attendez, votre voix est légèrement robotisée, déplacez-vous, on va vous retrouver dans un instant, on s'occupe de vous hors antenne. Henri peut-être, bonjour Henri.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Kinshasa, on vous écoute.
Oui, effectivement Juan, moi d'abord j'aimerais rapidement présenter mes condoléances à toutes les familles éprouvées qui sont dans cette partie de la République. Je veux dire ici que l'armée doit être responsabilisée. Donc là, j'en appelle à la conscience patriotique de nos militaires parce qu'ils ne peuvent pas baisser les bras, voir leurs compatriotes se faire massacrer comme des petites mouches sous le coup de l'insecticide. Donc il faut qu'ils prennent conscience. Et aussi, nous savons que il y a la complicité dans l'armée et d'où comment dirais-je l'implication des affairistes dans les décisions de l'État et aussi dans l'armée qui font cette guerre de basse intensité pour pouvoir s'enrichir. Alors ces gens-là qui tuent, moi à mon sens, je crois que après avoir perpétré leur massacre, soit ils repartent en Ouganda parce que les frontières sont proches, ou ils rentrent dans les brousses. Mais alors comment se fait, comme l'a dit mes prédécesseurs, comment se fait-il que notre service de renseignement est incapable d'identifier les bourreaux de notre population? Ça peut pas s'expliquer parce que nous avons le service de renseignement, nous avons la police, nous avons l'armée, et on tue depuis deux mois plus de 360 personnes. Jusqu'à ce jour, effectivement, on est incapable de désigner les vrais, bourreaux.
Oui. Alors, Henri, pour connaître la vérité, pour essayer d'y voir plus clair, les 12 députés dont je parlais tout à l'heure du pouvoir et de l'opposition réclament une commission d'enquête parlementaire. Vous en pensez quoi?
Bon, voilà. Oui, ben écoutez, cette commission parlementaire, ça, pour moi, c'est juste une mission, je dirais, de formalité. Parce qu'ils sont allés, ils sont revenus, ils ont rendu leur rapport qui, sur l'effectivité, n'apporte aucun soulagement. Ce que nous voulons maintenant, que ces massacres s'arrêtent. On n'a pas besoin des missions qui ne produisent rien du tout. Tout ce dont on veut est que le nouveau gouvernement qui vient de nommer, l'actuel ministre de la Défense, l'actuel ministre de l'Intérieur, puisse faire son travail de sorte que dans l'urgence, que ces massacres-là soient arrêtés et que ces populations retrouvent leur paix parce qu'ils travaillent, ils vont dans le champ. C'est ça aussi, au quotidien, ils vivent de ça. Actuellement, je crois que cette partie de la République est paralysée. L'économie est paralysée dans ce point-là. Mais écoutez, comment les enfants vont aller à l'école? Comment les hommes et les femmes vont travailler pour nourrir leur famille? Donc, il faut que ça s'arrête.
Ouais. Écoutez, il faut que ça s'arrête. Et c'est ce que disait le président Joseph Kabila, qui est allé dans ce secteur à la fin du mois d'octobre. Il s'est adressé à la population. Il a dit clairement, les ADF, les rebelles ougandais, doivent comprendre que nous allons les vaincre. Voilà, message clair du président Kabila. Ironie du sort, c'est que deux jours après son passage, les violences ont de nouveau repris dans cette partie de la République démocratique du Congo. Merci Henri, bonne journée à Kinshasa. Boki est à Bordeaux. Bonjour Boki.
Bonjour Juan, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Oui, ça m'inspire moi un sentiment d'abandon de la population parce que j'entendais il y a quelques jours, comme vous l'avez dit, le président Kabila en visite à Béni, demander à la MONUSCO de sécuriser le territoire de Béni. Mais je pense que, comme l'ont dit tous mes compatriotes qui sont passés à moi, et en particulier Henri, que c'est à l'armée congolaise, au FARDC, à la police congolaise, au service de renseignement du pays, de pouvoir sécuriser ce territoire. Moi, je crois qu'il y a un problème de stratégie. Comme le disait mon compatriote qui est aux États-Unis, qui est passé tout à l'heure, il faut absolument qu'il y ait une stratégie dans un premier temps de recueil d'indices et d'informations auprès de la population, auprès de témoins, parce qu'il y a quand même des gens qui ont échappé à ces massacres et qui ont vu...
Et vous pensez que ce n'est pas fait, Boki? Vous ne pensez pas que la MONUSCO, les casques bleus, que l'armée interroge la population malheureusement une fois le massacre commis, mais va sur place et mène des enquêtes, j'imagine.
Et dans un premier temps, oui, mais il faut remonter jusqu'à la source, parce que si on ne connaît pas la source du mal, on ne peut pas soigner. Le mal, vous avez dit tout à l'heure, Juan, qu'on supposait que c'était les ADF Nalou. Oui. Bah, ça veut dire qu'on n'est pas sûr.
On n'est pas sûr, puisque ces attaques n'ont jamais été revendiquées.
Voilà, donc il ne faut pas attendre une revendication quelconque, il faut vraiment que l'armée congolaise, je crois qu'il y a un problème de leadership dans l'armée, et un problème de recrutement, d'entraînement, d'équipement aussi. Oui.
Il y a surtout un problème depuis que le général Bahouma est décédé d'un accident vasculaire cérébral. C'était lui l'homme fort de l'armée, celui qui était vraiment considéré comme un héros au sein de l'armée congolaise, puisque c'est lui qui a réussi à anéantir le groupe rebelle M23. Et effectivement, après la fin du M23, il y a eu une nouvelle opération qui s'appelait l'opération Sokala, qui visait justement à s'en prendre aux rebelles ougandais dans l'est du pays. Tout allait bien jusqu'au moment où ce général est décédé et l'opération a été mise entre parenthèses. Elle a repris il y a quelques semaines, elle a été relancée, mais on voit bien que depuis le décès de ce général, l'armée est un peu, elle est un peu bancale, elle n'a pas véritablement de stratégie.
Oui, mais dans un grand pays comme la RDC, qui se veut un pays puissant au cœur de l'Afrique, dans une grande armée comme celle-là, on ne peut pas avoir un seul général compétent, il y en a d'autres. Ouais. Donc il faut vraiment qu'on mette... C'est très révoltant de voir que le président de la République passe dans ce territoire et quelques jours après, on massacre encore des gens. Il promet la sécurité aux populations et finalement, c'est cette population qui continue à être tuée. Mmh. Donc je crois vraiment qu'il y a un problème de stratégie au cœur de l'armée. Bien. Il faut reprendre ça en main et puis, comme disait Patrick, il faut que les têtes tombent. Heureusement que le président de la République a nommé un autre gouvernement. On verra bien.
On verra bien. Je suis désolé de vous interrompre et désolé pour ceux qui patientaient au standard. On m'a dit à l'instant que le réseau avec Félicien était de nouveau rétabli, qu'on avait une excellente ligne. Félicien, ne vous inquiétez pas, je vous le promets. On vous rappelle vendredi, et vous pourrez réagir. Vendredi, c'est la libre antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix. Demain, à mon avis, vous serez nombreux à souhaiter commenter la situation, la vie politique en Côte d'Ivoire, avec d'un côté le FPI, le principal parti de l'opposition. Il est plus que jamais divisé, puisque deux candidats briguent la direction du parti dans la perspective de l'élection présidentielle. Nous avons d'un côté Pascal Affine-Guessant et de l'autre Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, président de la République ivoirienne. Il est en ce moment détenu à La Haye, à la Cour pénale internationale. Peut-il gérer le FPI en étant en prison à des milliers de kilomètres de la Côte d'Ivoire? Ce sera la question que nous vous poserons demain. Et division également au sein du PDCI, toujours dans la perspective de l'élection présidentielle de l'année prochaine en Côte d'Ivoire.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.